Bienvenue, chers auditeurs, dans cette nouvelle émission consacrée aux grands personnages de la Bible. Nous allons aujourd'hui nous attacher à deux apôtres de Jésus qui s'appellent Jacques et Jean. Alors, Jacques et Jean, vous le savez, chers auditeurs, ce sont deux frères qui étaient fils de Zébédée. Zébédée était un patron pêcheur de poissons qui employait ses deux fils, Jacques et Jean, et ils pêchaient dans le lac de Galilée, aux côtés de, notamment, Pierre, qui est devenu le grand Saint-Pierre, et André, le frère de Pierre, qui était également des pêcheurs. Et ils ont été appelés par Jésus en qualité d'apôtres. Et Jésus les avait même surnommés, on en parlera peut-être dans le courant de l'émission, fils du tonnerre. Alors, ce sont deux frères qui vont devenir des apôtres, des frères de sang, qui vont devenir des frères en Christ et de grands apôtres, particulièrement importants, puisque Jacques, dont on va parler, est Jacques, le fils de Zébédée, Jacques le majeur, qu'on appelle le majeur, le grand Jacques du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, dont le corps a été enseveli dans le Compostela, le champ de l'étoile, en Espagne. Et Jean est probablement celui qui est l'auteur du quatrième évangile. Ce n'est pas certain, mais c'est à peu près sûr, d'après les théologiens. Et également auteur de l'Apocalypse. Et on appelait Jean, on représente Jean par l'aigle, c'est-à-dire celui qui voit loin et qui voit dans l'obscurité. Ça va bien pour l'Apocalypse. Voilà, donc on va parler de ces deux frères, Jacques et Jean, dont le cheminement est passionnant. Pour en parler, j'ai invité Stéphane Aubujon, prêtre à Cahors, qui va donc nous parler de ses apôtres. Alors, bonjour Stéphane, je vais te poser, Stéphane, une première question. Peut-on dire que ce Jacques et ce Jean sont des apôtres privilégiés ?
Alors, je vais commencer par dire oui. Oui, oui, on peut le dire. Hein, ce sont, dans les évangiles synoptiques, Jacques et Jean sont souvent cités ensemble. Jacques est l'aîné et Jean le plus jeune. Et il résulte de, pour préciser un petit peu déjà ce qui a été dit, hein, il résulte de quelques indices que Jean et Jacques, comme André et Pierre, ont d'abord connu Jésus à cause de leur lien commun avec Jean le Baptiste au bord du Jourdain. Et c'est ce groupe qui va rencontrer Jésus en premier et qui va former le premier groupe des disciples, hein, en tout cas des proto-disciples. Ils vont entendre un premier appel, venez et voyez. En tout cas, André et Jean vont l'entendre. Et donc, ces deux familles, celle de Simon et André et celle de Jacques et Jean, semble être lié, puisque lorsqu'il y a ce second appel, l'appel définitif pour les quatre apôtres, eh bien, cet appel a lieu au même moment et au même endroit. Notons aussi que Jacques, Jean, Pierre et André ont le même métier de pêcheurs sur la mer de Galilée. Et s'ils sont appelés par le Seigneur en même temps, Jacques et Jean semblent plus jeunes que Pierre et André. Ils pêchent avec leur père et ne sont pas mariés alors que Pierre est marié. Donc, ils sont probablement plus jeunes que Pierre et André. Alors, pour répondre à la question, en parcourant les évangiles, nous pouvons relever plusieurs endroits qui soulignent une place privilégiée qu'occupent ces deux frères. Ils sont déjà parmi les premiers appelés, comme j'ai dit. Qu'occupent ces deux frères dans le collège des douze apôtres. En effet, seuls Simon, Jean et Jacques reçoivent de Jésus un nouveau nom, et nous l'apprenons par Marc.
Alors voilà cet extrait de Marc, où on découvre effectivement cette appellation faite par Jésus de fils du tonnerre. Je cite, « Donc, il établit les douze. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. On comprendra peut-être un peu plus tard pourquoi. André, ensuite André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, l'autre Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.
Voilà, dans ce verset 16 à, dans ces versets 16 à 19, nous avons une première liste des 12. Et effectivement, l'appellation « fils du tonnerre » que Jésus donne à Jacques et Jean est donnée. Mais dans l'Église naissante, on ne va pas vraiment retenir ce changement de nom. Alors que pour Simon, qui va devenir Pierre, on va retenir le changement de nom. Alors, aux côtés de Pierre, Jacques et Jean, aux côtés de Pierre, Jacques et Jean sont choisis par Jésus pour être présents lors du rappel à la vie de la fille de Jaïr. Ils sont aussi les seuls présents à la transfiguration et à l'agonie. Pierre, Jacques et Jean représentent, selon beaucoup de commentateurs, l'Église naissante. En plusieurs endroits se révèle donc cette place privilégiée qu'occupent les deux frères dans le collège des 12 apôtres.
Alors pourquoi Stéphane, André, qui est appelé en même temps que Pierre, semble exclu de ce premier petit cercle?
Alors, les voies du Seigneur sont impénétrables, je ne prétends pas savoir, c'est plus un constat. Mais si nous cherchons du sens à ce choix, eh bien on peut d'une part trouver que Pierre ne pouvait pas être seul représentant de l'Église auprès de Jésus. Et la présence de Jacques et Jean évite d'isoler Simon-Pierre comme seule tête de l'Église après Jésus. Jacques et Jean semblent aussi être les prémices de la vie fraternelle en Christ, parce que l'Église est communion, et qu'un individu seul ne peut être signe de cette communion. Alors, une fois qu'il avait choisi Pierre, eh bien André ne faisait pas forcément l'affaire, et Jacques et Jean, eux, par ce lien fraternel, ce lien de sang, eh bien ils étaient un signe, à la fois qui indique cette vocation de l'homme à la fraternité, mais qui montre aussi que cette fraternité en Jésus-Christ n'est plus une fraternité de chair et d'entre-soi.
Oui, mais Jacques et Jean étaient-ils aussi exemplaires?
Alors, cette démonstration de fraternité ne commence pas dans le bon sens et dans le bon esprit. Mais c'est pour ça que ce lien entre Jacques et Jean est appelé à évoluer. Au début, Jacques et Jean adoptent dans leur comportement des attitudes souvent inadaptées et ils se copient l'un l'autre. Jacques et Jean se sont même ligués pour atteindre un objectif qui leur est propre, à l'occasion de la montée vers Jérusalem. En particulier, Jacques et Jean arrivent ensemble auprès de Jésus pour lui demander d'obtenir de lui les meilleures places.
Oui, ce n'était pas vraiment très glorieux. Voici cet extrait où il demande la première place. On le trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, que je vous lis. « Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Oui, nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de vous l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres, apôtres, non, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. »
On voit Jacques et Jean avec une autre idée d'eux-mêmes, et on les voit décider d'une bonne place dans ce qu'ils pensent être le futur royaume de Jésus, mais Jésus s'y oppose. Notons que dans le même récit rapporté par saint Matthieu cette fois, on voit Salomé, la mère de Jacques et Jean, se joindre à eux pour faire cette demande. Alors, un mot sur Salomé, elle est parmi ces femmes qui marchent vaillamment à la suite de Jésus, mais sa présence dans le groupe rappelle aussi le lien de chair et de sang entre les deux apôtres. En outre, une autre fois, Jacques et Jean apparaissent impatients et pleins de passion et de colère.
Alors ça, on en trouve la démonstration, effectivement, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 52. Donc nous avons vu que Jacques et Jean sont un peu bruts de fonderie, on va dire. Ce sont des artisans pêcheurs habitués à un travail manuel. Et dans l'extrait que nous allons lire, ils arrivent avec Jésus dans un village de Samarie où ils sont accueillis par des jets de pierre, une sorte d'intifada, quoi, en quelque sorte. Voilà cet extrait. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains. Quand on dit « ils », c'est Jésus, bien sûr. Pour préparer sa venue. Mais on refusa de les recevoir, parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. On voit bien, là, effectivement, on comprend un peu pourquoi Jésus va aller les surnommer « fils du tonnerre ». Ils veulent envoyer le feu sur les Samaritains, parce qu'ils sont mal accueillis. Et on voit bien là que les apôtres ne sont pas dans l'esprit de Jésus. Ils ne sont pas encore dans l'esprit de Jésus. Ils sont toujours dans l'esprit de l'Ancien Testament. La fameuse loi du talion, « œil pour œil, dent pour dent », ils refusent de nous accueillir, on leur fait tomber un feu sur la tête. Alors, en quoi Stéphane, ces apôtres, qui, on l'a vu, sont un peu opportunistes, un peu carriéristes, on l'a vu dans le précédent extrait, un peu violents, on le voit dans ce deuxième extrait, brutes de fonderie, comme je le disais, en quoi ces apôtres vont-ils peu à peu changer d'attitude pour devenir serviteurs de la parole ?
Alors, ils vont changer d'attitude. Et c'est une évolution qui est plus particulièrement nette en la personne de Jean. Mais si on suit le texte, on remarque déjà que durant tout le temps du ministère public de Jésus, il y a ce maintien de la proximité entre Jacques et Jean. Ils sont souvent nommés tous les deux ensemble. Mais dès la Passion, et plus encore après la résurrection, les deux frères vont mettre visiblement une distance entre eux. On note une évolution spectaculaire, en particulier après l'Ascension. Ainsi, dans les Actes des Apôtres, Pierre et Jean forment le premier binôme missionnaire, et Jacques n'est plus là. Il continue à faire partie du groupe des apôtres, mais il n'est plus associé à Jean. Ce qui est net, si on se souvient de la première liste des 12 que nous avons lue au début de l'émission, eh bien, en acte 1-13, il y a une autre liste qui est donnée par Saint-Luc. Et la voici. Les 12 étaient là, c'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude. Nous constatons que Luc associe Jacques à André, bouleversant les fraternités initiales. Étonnant. Ainsi, Jacques et Jean ne seront plus qu'invisiblement ensemble, c'est-à-dire dans le corps du Christ qui est l'Église. Les fils de Zébédée ne sont même plus ensemble dans notre calendrier liturgique qui fête Jacques le 25 juillet et Jean le 29 décembre, alors que nous fêtons le même jour Philippe et Jacques, le mineur, Simon et Jude.
Philippe est associé à Jacques, oui, dans le calendrier liturgique. Oui.
Alors, une séparation liturgique qui est en fait le signe d'une séparation qui a bien eu lieu, comme je l'ai dit, dès après la résurrection. Mais cette séparation ne va absolument pas nuire à leur vocation, c'est même tout le contraire, elle leur permet de la réaliser. Jean devient le premier soutien de Pierre, qu'il suit partout à Jérusalem. Nous voyons déjà les prémices de ce positionnement de Jean lorsque le jour de la résurrection, il s'efface derrière Pierre le laissant entrer en premier au tombeau. Et donc, pendant ces actes des apôtres, ces actes missionnaires, nous pouvons citer un passage où Jean est associé à Pierre, mais à aucun moment il intervient, il laisse Pierre prendre toutes les initiatives, la parole, l'action.
Alors dans cet extrait donc, des Actes, chapitre 3, versets 1 à 7, on se situe donc, il faut le contextualiser, on se situe donc après la venue de l'Esprit-Saint, après le discours de Pierre, les premières conversions et la constitution de la première communauté de l'Église naissante. Voilà cet extrait. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva. Et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent d'un bond. Il fut debout et il marchait.
Nous voilà donc devant une scène où Jean n'intervient pas. Il est le soutien silencieux de Pierre. Ce qui est encore plus significatif, c'est que l'apôtre Jean, au moment de réaliser le quatrième évangile, a à cœur de mettre en évidence cette primauté de Pierre dans le dessein de Dieu. Et je vous renvoie à l'émission radio que nous avons faite sur Pierre. Quant à Jacques, s'il disparaît au début des Actes des Apôtres, son martyr est évoqué au chapitre 12 du même livre. Et
alors, dans les Actes, effectivement, ce bref passage dit, je cite, « À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. »
Voilà, ceci fait de Jacques, ce martyr fait de Jacques, hein, le premier apôtre qui est martyr, justement. Il est possible que de là vienne le titre de Jacques le Majeur. Il peut paraître étrange que Jacques soit si vite oublié, en premier après la résurrection, puis après son martyr, on ne l'évoquera plus. Mais cela ne signifie pas grand-chose, c'est en effet le cas de bien des apôtres. L'évangélisation s'est effectuée comme du levain caché dans la farine, non comme les hauts faits d'un puissant. On peut cependant faire appel à la tradition des pères pour combler une partie du vide sur ce que fit Jacques dans les premiers temps de l'Église. Saint Jérôme, bien des siècles après, dans son bréviaire des apôtres, dit « Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, prêcha l'évangile en Hispanie, dans les régions occidentales, et diffusa la lumière de sa prédication aux confins de la terre. Il succomba sous le coup de l'épée du tétrarque Hérode. » Apôtre pèlerin et missionnaire, Jacques prend le titre d'évangélisateur de l'Espagne. Un certain Adelme de Malmesbury fait graver ce titre au 8e siècle sur un autel de son monastère anglais. Saint Jacques est reconnu saint patron de l'Espagne avant l'essor du pèlerinage de Santiago de Compostelle à la fin du premier millénaire. On trouve aussi un hymne mozarabe du milieu du 8e siècle intitulé « Hymne à Saint Jacques » qui le désigne comme patron de l'Espagne.
Voilà donc pour cette brève vie de Saint Jacques et de Saint Jean. Alors, Jacques ne laisse pas d'écrit.
Non.
L'épître de Jacques que nous connaissons dans la Bible est attribué à l'autre Jacques, dit le mineur, le fils d'Alphée. Que peut-on tirer, Stéphane, comme conclusion pour nous et comme enseignement pour nous aujourd'hui de ces vies d'apôtres ?
Eh bien, il y a cette transformation d'un lien, de frère de sang à frère en Christ. Si dans un premier temps, Jacques et Jean trop centrés sur leur situation privilégiée, n'agissent pas selon l'esprit du Christ. Après la résurrection et la Pentecôte, ils découvrent les chemins d'un dépassement. Ils se laissent guider par la connaissance du dessein de Dieu et du Christ par son esprit. Jacques et Jean évoluent alors vers leur vocation propre. Cette évolution nous aide à comprendre que la vocation de l'homme à la fraternité ne peut être vécue qu'en renonçant à nos projets personnels et en cherchant le dessein de Dieu, notre Père commun.
Voilà, donc, et quant à Jean, lui, on sait qu'il a laissé comme écrit, enfin a priori, hein, l'évangile de Jean, qui est bien écrit, semble-t-il, par l'apôtre, cet apôtre Jean, et l'Apocalypse, bien sûr, qui achève et ferme la Bible, qui est le dernier texte de la Bible. Voilà donc, chers amis auditeurs, pour ces deux personnages qu'on a essayé de vous faire un peu découvrir et comprendre. Vous vous souviendrez qu'ils s'appelaient Fils du Tonnerre. Ça n'apporte pas grand-chose, mais bon, c'est toujours un peu amusant. Voilà, donc je dis merci à Stéphane pour les explications qu'il nous a données.
Merci Jacques.
À Imanol pour son appui technique. Et je vous remercie, chers auditeurs, de votre écoute attentive, vous disant à bientôt pour une nouvelle aventure dans les personnages de la Bible.